Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Beaucoup d'attentes ce matin. Que va nous dire Emmanuel Macron ce soir à 20h? À quel point va-t-il prolonger le confinement? Quelle perspective pour la réouverture des écoles et la transition vers la reprise de l'activité? Ce sera long, préviennent les scientifiques qui conseillent le président. Sinon, gare à la deuxième vague de l'épidémie. Explication dans un instant. Et quand on dit que le confinement sauve des vies, c'est vrai dans les EHPAD où le personnel se claquemure avec les résidents. Pas un seul malade dans l'établissement où nous nous rendrons du côté de Lyon. Confinée chez elle, en Guyane, comment pense-t-elle, comment réfléchit-elle cette période si étrange et menaçante? Votre invité dans 20 minutes.
Oui, c'est l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elle dialoguera avec vous également, amis auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler, le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
Et dans ce journal aussi, cet accord historique pour faire remonter les prix du pétrole, les pays producteurs s'entendent pour baisser considérablement leur production face à la baisse de la demande mondiale. Comment faire valoir ses droits dans l'entreprise quand les prud'hommes sont fermés? Et puis il faut sauver France 4. Ce sont ceux qui voulaient la voir disparaître au mois d'août qu'ils disent aujourd'hui.
France Inter.
Ces deux précédentes déclarations depuis l'Élysée ont changé le cours de nos vies. Enfants sans école, confinement pour tout le monde, c'était il y a un mois. Emmanuel Macron de retour ce soir, 20h02, après les applaudissements aux soignants, le pays entier dans l'attente avec une certitude énoncée par le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. La fin du confinement n'est pas pour demain.
On est encore en confinement pour plusieurs semaines. Évidemment, la date sera précisée par le président de la République, mais on y est pour plusieurs semaines. Et pour quelle raison? D'une part, pour continuer à faire diminuer la pression sur le système de soins. On commence à avoir un signal qui montre que le système de soins de la région parisienne a l'air de tenir. Il reste encore une pression très importante. Et le deuxième élément, c'est qu'on souhaite diminuer la vitesse de circulation du virus, c'est-à-dire ramener une vitesse de circulation du virus à un niveau beaucoup plus faible que celle que nous avions en début de confinement.
Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur lequel s'appuie Emmanuel Macron pour prendre ses décisions, avec Daniel Messager. Le confinement commence à porter ses fruits, dit-il. La courbe des patients admis en réanimation baisse légèrement depuis 4 jours. 35 malades de moins pris en charge hier dans toute la France. 35 seulement, dit Jérôme Salomon, qui constate l'amorce d'un très haut plateau alors que l'épidémie a encore fait 315 morts en 24 heures. Si les chiffres semblent baisser, le combat est encore loin d'être gagné. Le président ce soir pourra aussi s'appuyer sur cette étude de l'INSERM en région parisienne. Elle donne des clés pour comprendre les enjeux du déconfinement. Pas avant la mi-mai, voire fin mai, début juin, disent les chercheurs, sans rouvrir les écoles et sans reprendre totalement l'activité, sans quoi, Véronique Julia, il y aura un rebond de l'épidémie et un rebond violent.
Les chercheurs estiment qu'au 5 avril, la proportion de personnes déjà infectées en Île-de-France se situait entre 1 et 6%. Ils évaluent à 80% en moyenne la réduction des contacts du fait du confinement. Ils en déduisent qu'un malade ne transmet plus le virus aujourd'hui qu'à 0,68 personnes autour de lui, contre 3 personnes initialement. Mais comme l'immunité de groupe est très faible, si on lève le confinement d'un coup avec reprise de 100% des contacts, une seconde vague viendra à coup sûr submerger nos hôpitaux. Pas le choix donc, il va falloir agir par étapes pour retarder et atténuer le rebond. Maintenir à l'arrêt par exemple 50% des activités non essentielles, rester partiellement en télétravail, fermer les écoles encore plusieurs mois, poursuivre encore l'isolement des personnes âgées, mettre à l'écart les malades. Les chercheurs plaident pour une levée de confinement tardive qui donnerait le temps de préparer une vraie stratégie de dépistage, car il n'est pas question seulement du nombre de tests disponibles. Pour bien dépister, il faut des hommes, l'organisation et la logistique qui va avec. L'étude envisage aussi de s'adapter en fonction du contexte, en renforçant les contraintes si le virus revient en force et vice-versa. Avec toutes ces simulations, on comprend vite en tout cas que le retour à la vie normale n'est pas à envisager avant des mois.
Voilà, des semaines, des mois sans retour à la vie normale. À Emmanuel Macron d'esquisser les pistes de la reprise de l'activité que certains attendent quand d'autres la redoutent, comme ces travailleurs parisiens qu'a rencontré Timur Özturk.
Avec plusieurs heures d'avance, Didier ferme son kiosque. Pas assez de clients pour ses journaux et magazines.
Confinement, c'est bien gentil, mais moi je pense que de toute façon, il va falloir retourner à une vie normale, parce qu'on peut pas tous être payés par l'État qui a pas de sous. C'est très très difficile pour tout le monde.
Employé dans une brasserie, Arnaud est lui au chômage technique. Et s'il s'accommode bien du confinement, il serait prêt à retourner travailler, même sans masque.
Moi, je suis prêt à reprendre le travail sans protection, parce que c'est un virus qui va s'étendre dans la durée, sur plusieurs années. Tout le monde va l'avoir à un moment donné, donc voilà, pour que la vie économique reprenne, important.
Un masque artisanal sur le visage, Géraldine fait la queue devant une boulangerie. Depuis un mois, elle télétravaille et estime qu'un retour à la normale serait prématuré.
J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fébrilité, que ça soit de nos gouvernants ou du MEDEF. Mais voilà, c'est pas parce que... On est resté confiné 4 semaines, que le problème est résolu. Ne confondons pas vitesse et précipitation.
Pour Géraldine, nous allons de toute manière au-devant d'une grave crise économique. L'enjeu prioritaire reste pour le moment celui de la santé.
Des travailleurs au micro de Timur Özturk vont-ils devoir mettre les bouchées doubles après la crise sanitaire, travailler plus, comme les y appelle le MEDEF, relayé par la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher. Proposition indécente, juge le patron de la CFDT, Laurent Berger. Et comment faire respecter les obligations des employeurs en ce moment? Le ministère de la Justice avait promis le maintien des procédures d'urgence, mais les prud'hommes sont fermés. Ariane Grissel, situation inextricable pour certains salariés.
Quand ils s'aperçoivent que leur employeur ne les paye plus, les salariés d'une entreprise normande font appel à une avocate, Sophie Chalon-Belval.
Normalement, nous pouvons faire des procédures d'urgence en référé pour obtenir une ordonnance de condamnation de paiement, ce qui nous permet après de récupérer les salaires pour les gens.
Mais au conseil des prud'hommes concernés, aucun référé possible, lui dit-on, tout est fermé.
Mes clients se retrouvent sans ressources, puisqu'ils sont toujours salariés de l'entreprise. Ils ne peuvent pas percevoir des allocations Pôle emploi, et ils sont censés être en télétravail ou en travail effectif avec paiement de leur salaire et ils n'ont pas de salaire.
La situation est la même un peu partout en France, Mulhouse, Caen, Nantes, Angers, entre autres. Le syndicat des avocats de France a lancé un sondage auprès de ses adhérents. Rachel Saada est membre du SAF, spécialiste en droit du travail.
La majorité des conseils de prud'hommes sont complètement fermés. Les juridictions sociales sont des juridictions qui sont pauvres et qui sont mal considérées. Et là, c'est une sorte de coup de grâce.
Interrogé sur ces fermetures, le ministère de la Justice ne fournit pas d'explications. Les conseillers prud'homaux ne sont pas des magistrats professionnels, d'où peut-être la difficulté de les solliciter en ce moment. Plusieurs avocats notent qu'une grande partie des moyens est accordée à la justice pénale, les crimes et délits, pendant le confinement, alors que dans le même temps, la situation économique se dégrade dangereusement pour une partie des salariés.
Et de fait, l'activité économique en France a baissé d'un tiers. La consommation dans les mêmes proportions. L'industrie tourne à moins de 60% de ses capacités. Les avions ne volent quasiment plus et c'est pareil partout dans le monde. Qui achète encore du pétrole dans ces conditions, même à un tarif historiquement bas, plombé par la guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et Moscou? Eh bien, les cours remontent cette nuit en Asie. L'OPEP et ses partenaires sont tombés d'accord pour la plus grande baisse de la production jamais décidée. Le premier à s'en féliciter publiquement, le plus rapide, comme souvent, Loïc Loury, c'est Donald Trump.
Cet accord va sauver des centaines de milliers d'emplois dans l'énergie aux États-Unis. Donald Trump, hier soir, se réjouissait ainsi sur Twitter. Le président américain remercie et félicite son homologue russe Vladimir Poutine et le roi Salman d'Arabie Saoudite. Les trois dirigeants, un peu plus tôt, s'étaient entretenus par téléphone. Cette entente met fin à la guerre des prix qui opposait Riyad et Moscou. La production va diminuer le mois prochain d'environ 10 millions de barils par jour sur près de 100 millions produits quotidiennement. Objectif, stabiliser les prix qui avaient chuté à près de 20 dollars ces derniers jours contre 60 il y a quelques mois. Pour Donald Trump, c'est une victoire. Son pays est le premier producteur mondial d'hydrocarbures. 10 millions d'emplois directs ou indirects en dépendent et ce sont autant d'électeurs. Mais cela sera-t-il suffisant alors que la moitié de l'humanité reste confinée? La demande actuellement est plus d'un tiers inférieure à la normale. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et aux États-Unis, 1500 morts hier. Bilan du coronavirus en baisse depuis samedi, alors que l'Italie, pour la première fois depuis 3 semaines, a compté moins de 500 décès en 24 heures et ce, après pas loin d'un mois et demi de confinement. En Grande-Bretagne, on a revu Boris Johnson hier, sorti de l'hôpital au bout d'une semaine, dont 3 jours en soins intensifs. Le Premier ministre a publié une vidéo pour remercier le personnel soignant, expliquant que tout aurait pu basculer. Il ne va pas reprendre du service tout de suite à Downing Street, le temps d'une convalescence. Et donc, Dominic Raab, ministre des Affaires étrangères, qui continue à le remplacer. Un homme que l'épidémie a placé en première ligne, c'est notre portrait du jour, signé Valérie Crova.
Fidèle parmi les fidèles de Boris Johnson, Dominic Raab, 46 ans, physique de jeune premier, n'a pas manqué de souligner son attachement à Bojo lors de sa première déclaration publique.
Il n'est pas seulement le Premier ministre pour nous tous au cabinet, ce n'est pas seulement notre patron, c'est aussi un collègue et c'est aussi notre ami.
Un ami qui a choisi cet ancien avocat spécialisé en droit international, ultra-libéral, pour le remplacer le temps de sa convalescence. Une sorte de récompense aussi pour celui qui a témoigné à Boris Johnson un soutien indéfectible durant la campagne en faveur du Brexit. Ceinture noire de karaté, Dominic Raab représente la nouvelle génération des conservateurs. Connu pour être un animal politique à sang-froid, certains hauts fonctionnaires l'ont affublé du surnom de démoniaque Raab. Dans ses nouvelles fonctions, il n'a qu'un pouvoir limité. Au sein du cabinet, les décisions sont prises au consensus. Au début du week-end pascal, il s'est borné à répéter les recommandations d'usage.
Je sais que c'est dur, mais c'est un effort d'équipe. Nous ne vaincrons ce virus que si nous gardons tous le cap. Alors, restez à la maison.
Sur son compte Twitter, Dominic Raab continue de suivre les grands dossiers internationaux du moment, comme la guerre au Yémen ou l'utilisation d'armes chimiques par l'armée syrienne.
Portrait complet à lire également sur franceinter.fr.
Il est 8h11 chez nous en France, Florence, il va falloir s'y faire, on l'a compris.
Rester chez soi, encore un bon moment, mais quand on n'a pas de famille, pas d'espace, pas de jardin, les semaines qui se suivent sans sortir ressemblent à l'éternité. Il y a 3 semaines, Clément Guillou, étudiant en psycho, reclus dans les 9 mètres carrés de sa chambre à la Cité U d'Angers, nous avait raconté son confinement. Béatrice Duguay l'a rappelé pour prendre de ses nouvelles. Et comme on s'en doute, la vie est dure et vide pour le jeune homme.
Impossible évidemment de pousser les murs du logement et l'exiguïté devient franchement pesante.
Vu que je suis dans un tout petit espace, je me sens vite à l'étroit. Quoi. Je commence un peu à bien tourner en rond. Quoi. C'est le fait que ce soit petit, moi ça me donne très très envie de sortir. Vraiment, juste ne serait-ce que prendre l'air, ça me ferait du bien, mais ça me fait mal de me dire que je vais retourner après dans ma petite chambre. Quoi.
L'emploi du temps de Clément Guillou tient de la routine. Coup de téléphone à des amis, appel vidéo avec la famille de temps en temps, jeux en ligne avec des copains et travail universitaire en fin de journée. Avec juste une heure de sortie quotidienne, les journées sont interminables.
Quand je vais en cours, j'ai toujours des cours différents, je fais toujours des journées différentes. Là, c'est tout le temps la même journée, j'ai l'impression que c'est une journée en boucle. Quoi.
D'autant que dehors, il fait un temps printanier et que la chaleur s'accumule dans la petite chambre.
Je me retrouve souvent à avoir très chaud la nuit. Là, ça fait 2-3 nuits, voire plus encore, que c'est très chaud dans ma chambre. Et ouais, ça commence à être un peu embêtant. Ouais.
L'étudiant voit peu de monde, un peu piégé dans sa petite pièce. Il appréhende aujourd'hui autant la poursuite du confinement que la perspective du déconfinement.
Moi, ça m'avait fait bizarre, ne serait-ce que de m'adresser à la caissière quand j'avais été faire mes cours. Donc oui, d'être tellement éloigné des gens que... Au moment où on me parle, je suis un peu gêné, c'est bizarre. Quoi.
Avec Clément, plusieurs centaines d'étudiants restent ainsi isolés dans les CTU d'Angers.
Béatrice Duguay, se confiner pour sauver des vies, voici un endroit où les résultats sont là, un endroit d'où plus personne ne sort et où plus personne ne rentre depuis un mois. C'est les pattes de Corba, près de Lyon. Dévouement total des salariés reclus avec les pensionnaires. Et ça marche, Mathilde Imberti, personne là-bas n'a déclaré la maladie.
Dans cet EHPAD, les résidents qui ont en moyenne 87 ans ne sont pas confinés dans leur chambre. Pas besoin, puisque l'établissement ne reçoit personne depuis un mois et que le personnel s'est volontairement retranché à l'intérieur, soit 22 professionnels autour de la directrice Valérie Martin.
Au niveau conscience professionnelle, elles savent qu'elles sont là au bon endroit, au bon moment, au plus près des résidents. 106 résidents en accueil permanent.
Le personnel dort sur des matelas installés dans les pièces, réservées en temps normal aux activités. Leurs journées sont plus chargées que d'ordinaire, d'après le récit de Marie-Hélène Gann, aide-soignante de 58 ans confinée depuis le début.
Je commence à 7h jusqu'à 20h30. C'est vrai qu'on fait tout, aussi bien la vaisselle que les toilettes, que les faire manger les résidents, même le ménage. S'il y a besoin d'un coup de main, on est toujours là. On s'entraide entre nous et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien.
En évitant les allées et venues entre l'EHPAD et le monde extérieur, le co-confinement montre son efficacité. Aucun malade du Covid-19 chez nous, avance fièrement la directrice.
Les résidents vont très bien, le personnel va très bien, même les familles du personnel vont bien. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire aussi. On continue, on espère tenir le plus longtemps possible, on y croit. comme on dit.
De Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
On a plus de 5000 décès liés au Covid-19 ont été déclarés dans les EHPAD depuis le 1er mars. La vie en collectivité, facteur de contamination massive, parfois comme dans ce foyer de demandeurs d'asile de la Crèche dans les Deux-Sèvres. 38 résidents positifs sur 86. Et puis combien d'enfants martyrs du confinement en France? Un père du département de la Loire a été mis en examen pour coup mortel après la mort de son fils de 18 mois. Il dit l'avoir giflé pour le ramener à la vie. Il était seul avec ses deux enfants et alcoolisé. Information de nos camarades de France Bleu. Sauver ce que l'on voulait voir disparaître, c'est aussi un effet du Covid-19. Ainsi, France 4 devait fermer le 9 août prochain. C'est la réforme du ministère de la Culture. Or, France 4, depuis le début du confinement, fait la classe aux enfants. 2 millions de petits téléspectateurs devant ses programmes. Au bas mot, du coup, des députés et des sénateurs demandent au gouvernement de revenir sur sa décision, y compris ceux qui étaient pour au départ, comme Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche.
Le temps du confinement a aussi été un temps qui a révélé à quel point la culture et les médias avaient un rôle inouï dans nos vies et dans notre quotidien, et notamment l'audiovisuel public et le rôle de France 4. C'est-à-dire qu'avoir la capacité, grâce à une chaîne de télévision linéaire, que dans tous les foyers français soient accessibles des programmes éducatifs et culturels appuyés par des enseignants, n'aurait pas été possible sans l'agilité du service public, sans la redevance aussi qui permet évidemment son financement. Et je crois que ça a démontré à chaque la singularité et l'utilité de France 4. Ce qui est certain, c'est que le Parlement avait déjà dit ses réserves sur la fin d'une chaîne jeunesse au sein du service public de l'audiovisuel, parce que la grande différence entre le linéaire et une plateforme numérique, c'est déjà que le linéaire, c'est une politique de l'offre, c'est-à-dire que vous proposez des contenus aux enfants et c'est pas uniquement eux qui choisissent ce qu'ils ont envie de regarder. C'est aussi un enjeu d'égalité sociale et territoriale, parce que ceux qui ne sont pas équipés d'outils numériques, eh bien, seraient privés de la capacité à avoir accès à ces contenus.
Voilà, de l'intérêt de l'audiovisuel public, Aurore Berger, jointe par Isabelle Pasquier. Enfin, 230 000 personnes attendues à l'hippodrome de Longchamp au mois de juin. Impensable festival, comme le seront sans doute les suivants. Solidaise n'aura pas lieu cette année, annulée et pas reportée. Le festival avait rapporté plus de 3 millions d'euros à la lutte contre le sida l'an dernier. On aimerait que certains festivaliers ne se fassent pas rembourser leur place, a dit ce matin Luc Barruet, fondateur de Solidaise sur France Inter.
Florence Paracuelos, merci.